you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jacques Azubert et réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirach et Philippe Chevillier. Pour parler ensemble de Poussière, écrit et mis en scène par Lars Noren, c'est à la Comédie Française. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mis en scène de Catherine Yegel au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, mis en scène par Lélio Ploton. C'est au Lucernaire. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Globe, architecture et science, explore le monde. Exposition à découvrir jusqu'au 26 mars à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. On sait que Lars Noren est un immense auteur, sans doute un des dramaturges vivants les plus importants. La dernière fois que Lars Noren avait lui-même mis en scène une de ses pièces en France, c'était au Vieux Colombier, avec la troupe de la Comédie Française. La pièce s'appelait Pure. Nous ouvrons cette dispute en nous intéressant à la dernière pièce en date de l'auteur, Poussière, qu'il met lui-même en scène, cette fois dans la salle Richelieu de la Comédie Française. Poussière réunit 11 personnages, touristes âgés, se retrouvant chaque année depuis 30 ans, voire plus, dans le même complexe hôtelier d'un pays indéterminé, mais qui pourrait être l'Espagne. Une semaine au soleil, qui est le seul luxe de leur vie en bout de course. On verra que le passé, le présent s'entremêlent, les débuts ressemblent aux fins, à moins que ce ne soit l'inverse. Tous les vacanciers, ou presque, vont peu à peu disparaître, tomber en poussière.
C'était une belle journée aujourd'hui, pas si chaude.
Si on n'a pas de problème au dos.
Pouvoir faire mes bagages et rentrer chez moi.
Déjà ?
Ouais, c'est comme si on était arrivé hier.
Oh, la mer est, et la mer est presque calme.
Je veux rester mordre et pas lâcher.
Ah bon ?
Je veux parler à tous les enterrements. Bientôt, il en restera plus beaucoup, n'est-ce pas ?
Oui, il y en a eu beaucoup avec les années.
Il restera bientôt plus un seul con, seulement soi-même.
À quels enterrements tu as été ?
Il y en a de plus en plus à notre âge.
Je ne me souviens pas bien de qui ils étaient. Je commence à les confondre. Parfois, je croise quelqu'un que je croyais mort, et en fait, soudain, il est là, et je ne me souviens plus de son nom. Ou bien, on pense à quelqu'un mort depuis des années, en se demandant juste où il est parti.
Oui, c'est comme si on était dans une grande pièce avec plein de gens autour, du même âge que nous, et puis l'un après l'autre, ils disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Comme si j'avais été appelé ou élu, ça dépend comment on voit ça. Et on comprend que bientôt ça se rapproche, et que ça va être à notre tour de partir.
Mais en fait, soudain, il est là.
Qui ça ?
Celui qui n'était plus là. On ne se souvient plus de son nom.
On est déjà mort, c'est juste une question de temps. Désolé.
Allez pour vous, bordel.
Voilà, pour cet extrait assez significatif au fond de Poussière en ce moment à la Comédie Française. Et c'est Fabienne Pascaud qui commence à nous en parler.
Moi, c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Là, en l'écoutant tout à coup, je trouve qu'il y a une dimension drôle qui ne m'avait pas forcément tout de suite sauté au visage. C'est vrai que Lars Noren, qui a 73 ans, qui lui-même est obsédé par la mort, raconte une fin de vie, raconte le naufrage de la vieillesse, naufrage d'autant plus terrible que les 10 personnages qui sont là sont des paumés, un peu laissés pour compte, des gens pauvres qui sont sans doute des assistés et qui viennent en vacances, des vacances qu'on leur offre, et des vacances misérables sur un coin de plateau complètement gris. Certes, il y a la mer, mais il y a des cailloux, il y a même pas de chaise pour s'asseoir. Ils n'ont même plus la force de se parler. La pièce, c'est souvent des monologues successifs, ce qui doit être très très dur à mémoriser. Le soir où j'y étais, il y a eu pas mal de trous de mémoire des acteurs, mais peu importe, parce que ces trous de mémoire collent admirablement à la situation de ces personnages au bord d'Alzheimer, dont le présent n'est qu'une infinité de souvenirs sans arrêt recommencer, donc il n'y a plus de présent, et ils vont eux-mêmes disparaître peu à peu, mourir. Alors ces personnages sont des anonymes, ils ont pour nom des lettres. La seule qui a un vrai prénom, Marilyn, est une handicapée mentale. Alors ça en dit long sans doute sur ce que pense Lars Norén, hein, que la vie, elle n'est vraiment vécue que par des gens qui ont des handicaps, qui l'aperçoivent mieux que nous. Et moi, ce qui m'a bouleversée dans cette pièce, dans le texte surtout, parce que la mise en scène, elle est parfois un peu maladroite. Les acteurs sont là, assis l'un à côté de l'autre. On sent que Lars Norén est plus auteur, plus dramaturge que metteur en scène. Ce qui m'a bouleversée, c'est qu'il raconte, je trouve, admirablement, et moi ça m'a réellement hypnotisé, ce passage de la vieillesse à la mort. Cette espèce d'attente qu'on peut avoir, ce non-temps où on ne sait plus bien qui on est, où on sait que ça va se terminer, où on a peur que ça se termine. Cette espèce de no man's land que très peu de dramaturges ont exploré et qui est pour la spectatrice que j'étais, en tout cas, une véritable leçon d'accompagnement. Et ça, je dois dire que ça m'a bouleversée, d'autant plus bouleversée que les acteurs sont admirables. Ils sont tous très bien, de Anne Kessler, que j'aime particulièrement, à Françoise Lebrun, à Bruno Raffaelli, à Didier Sandre. Ils sont tous très bien. Et ils sont tous quotidiens, ordinaires et en même temps happés par la mort. Moi, j'ai été bouleversée par ce spectacle.
Bouleversée au point de dire Françoise Lebrun au lieu de Daniel.
Ah
Lebrun.
Oui, bah oui, Françoise mais, Lebrun, voilà. Je me trompe d'actrice là, mais c'est Daniel et elle est remarquable.
Elle est tout à fait remarquable. Philippe Chevillier, premier regard sur ce spectacle signé Lars Norén.
Moi aussi, j'étais très impressionné. Quand on entend ce petit extrait au début, on rit effectivement et c'est une bataille un petit peu dans la tête pendant tout le spectacle parce qu'on est à la fois horrifié, en même temps on est porté par la poésie de certains passages, par des fulgurances. C'est très humain parce que c'est 11 personnages, on finalement apprend à les connaître parce qu'ils racontent leur histoire par bribes. Donc moi, j'ai été très fortement impressionné. Alors en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu entre la première où était Fabienne, la première en tout cas, c'était la troisième, mais bref, il y a eu un jour de décalage et visiblement ils sont tous remis sur leur texte et il n'y a pas eu une erreur le soir où je l'ai vu. Et donc il y avait un rythme qui était très fort et qui portait vraiment la pièce de Lars Norén. Je trouve que d'ailleurs c'est rare qu'on ait dans un dossier de présentation d'un spectacle et même dans le programme des propos aussi émouvants de la part d'un auteur. Hein, moi, je lirai simplement juste les petites lignes qu'il écrit à la fin du texte du programme. Je ne sais pas si j'ai peur de la mort. Non, je n'ai pas peur. J'ai vraiment ce rêve. Je suis assis dehors sous les arbres, très vieux, et je laisse mon esprit s'échapper. Le soleil, le jardin, personne n'a plus besoin de moi. Je peux juste me laisser m'en aller loin. Et je pense que le texte est porté par ces mots, par cette vision qu'il a de cette façon de regarder la mort en face et de nous la montrer en direct. Alors, il faut quand même dire que pour des spectateurs, ça peut être dérangeant. Il y a des gens, je pense, qui se ferment à ça parce que c'est vraiment, on voit pas seulement ces derniers moments. C'est pas, on ne disparaît pas de scène à l'épée comme chez Shakespeare. Là, c'est vraiment la déchéance. C'est vraiment et c'est assez extraordinaire de voir ça. Et c'est un spectacle qui doit aussi mûrir dans la tête. L'autre chose que je voulais dire sur moi où je suis pas tout à fait d'accord avec Fabienne, c'est que je pense que la mise en scène, quand même, elle est franchement intéressante. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un enfer pour les comédiens, parce que non content d'avoir le texte qui des phrases qui partent, qui parfois se terminent pas, des dialogues qui n'en sont pas, puisqu'il pose une question A ou B, et l'autre répond sur tout à fait autre chose. Il y a en plus cette mise en scène en contrepoint. En fait, ils sont avec leurs chaises, on les voit en rang devant la scène, mais il y a plein de choses qui se passent autour d'eux et derrière, et donc ils sont sans arrêt sollicités, y compris par les morts à la fin, parce que les morts passent derrière un rideau, il y a un dialogue entre les morts et les vivants, et donc c'est vraiment un enfer pour mémoriser, à mon avis, ce texte, pour le jouer, pour se l'approprier, et je trouve ça extraordinaire qu'en si peu de temps, ils arrivent à réaliser d'apprendre ce texte. Moi, ça me fascine, et d'apprendre leur place, et d'intérioriser, d'avoir cette intensité en scène. Je pense qu'il n'y a qu'une troupe comme celle de la Comédie Française, quelques autres évidemment dans le monde, qui peuvent s'accaparer un tel texte, qui en plus a été modifié visiblement au plateau jusqu'au dernier moment, puisque quand on lit le texte, il y a des passages qui ne figurent pas sur scène et vice-versa. Donc voilà.
Difficulté supplémentaire encore. Marie-Josée Sirache, à nous, à présent.
Oui, comme mes camarades, j'ai été bouleversée, troublée, et parce que c'est une pièce à la fois dérangeante, puisqu'elle aborde un sujet rarement... qui fait rarement l'objet d'une attention aussi vive, aussi prégnante, aussi délicate. Il y a quand même, je trouve que l'écriture de Lars Noren est bouleversante parce qu'elle est à la fois clinique, très distancée, c'est-à-dire que ces personnages sont tels qu'il les voit, il les imagine. Enfin, ils partent. Ils ne se répondent pas, enfin tout ce que vous avez pu dire sur parfois leur méchanceté, leur cruauté, leur façon, enfin les mots, ils oublient les mots, leur corps se rabougrit, c'est des gens en train qui ne sont pas morts, mais c'est comme si on est déjà mort, dit l'un d'eux. Et en même temps, ce regard clinique est complètement transcendé par une humanité incroyable, puisqu'il leur redonne vie, il redonne un sens à cette vie qui a eu lieu, qui n'était pas des vies, ce sont pas des héros, ce sont des gens effectivement très ordinaires, qui ont passé une vie, qui ont connu des hauts et des bas. On sent que certains effectivement étaient peut-être à la marge, mais enfin tous avaient plutôt un travail, enfin c'était des gens de cette classe moyenne. Et puis ils se retrouvent là dans cet hôtel qu'ils ont fréquenté depuis 30 ans, et c'est terrible parce que le temps passe et rien ne bouge, comme si quelque chose s'était figé, et on est tout le temps dérangé parce qu'on se dit que ça peut être nous, ça peut nous arriver, c'est-à-dire comment on peut aborder le passage avant la mort. Et c'est ça qu'il regarde Lars Noren, et c'est ça qui nous plonge dans un état de troubles permanents, y compris même d'angoisse, parce que nul n'est à l'abri de cette décrépitude mentale, physique, et on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. Et lui le regarde presque tranquillement, avec beaucoup d'apaisement, puis grâce à cette mise en scène d'ailleurs, puisque ils quittent le plateau et vont derrière ce tulle gris qui sépare la scène en deux, et il continue d'être encore vivant derrière, et de parler et d'interpeller leurs compagnons qui sont encore sur la plage, qui sont encore parmi nous, mais qui sont dans cet entre-deux. Et c'est très, très, très beau. Moi, des gens étaient gênés à la fin. C'est vrai, je comprends qu'on puisse être gêné parce que c'est un sujet qui est rare et qui est dur, hein, il ne cache rien de la déchéance physique et mentale. Les gestes inappropriés, souvent on dit c'est un retour à l'enfance, mais enfin quand même, c'est des adultes. C'est-à-dire que quand l'un se masturbe, ça dit quelque chose de ses frustrations, ou de sa vie sexuelle qu'il n'a peut-être pas eue. C'est très curieux comme texte, mais c'est une très belle, une réussite.
Alors, c'est vrai que, en plus, il y a le fait que ce soit donné à la Comédie Française, salle Richelieu. Disons, c'est pas faire offense que c'est pas le public le plus jeune de France, même s'il y a beaucoup de scolaires aussi qui voient la Comédie Française, et que l'effet miroir était assez saisissant. Moi, j'ai entendu pas mal de commentaires à la sortie, notamment je pense à une dame, je crois, qui disait à son ami, qui était une dame âgée, qui disait, vraiment j'ai pas de chance, je viens pas souvent, alors là, quand je viens vraiment, c'est dur d'entendre ça, mais elle s'en plaignait pas, au sens où elle trouvait que le spectacle était mauvais, mais que c'était quand même particulièrement violent aussi d'entendre des choses comme cela. Bon, très impressionné moi aussi, je ne cacherai pas plus longtemps, parce que je trouve que c'est apparemment simple, que ce soit dans le texte ou dans la mise en scène, cela je rejoindrai Philippe Chevillier, je le dirai peut-être dans un instant, mais sur le fond aussi, sur ce que ça nous raconte quand même, bon, il n'arrête pas de creuser les obsessions de chacun des personnages, sans doute des obsessions de l'auteur, mais des obsessions qui appartiennent, à, je pense, à beaucoup, beaucoup de monde. On pourrait dire très simplement quel est le sens de la vie, mais il y a une chose qui m'a frappé, vous parliez de classe moyenne, Marie-Louise Sirage, moi il me semblait que c'était plutôt quand même des classes populaires, on a un ouvrier, on a un chauffeur de poids lourd, on a des gens dont on se dit que, enfin, il y a quand même quelque chose de, qui me semble être une réflexion sur l'aliénation par le travail. Et le fait que, on est face à des gens.
On leur offre des vacances. Pardon? On leur offre des vacances.
Je sais pas, mais c'est une semaine par an et c'est quand même pas un club, un hôtel de luxe sous les tropiques. C'est très près d'ici.
C'est sur ces complexes hôteliers dans le sud de l'Espagne qui accueillent des brassées de touristes des pays nordiques.
Oui, mais pas seulement.
Oui, mais entre autres, et quand même, ils y vont beaucoup. Et c'est pas uniquement là. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'il met en scène des gens des classes moyennes qui, chez nous, seraient des classes défavorisées, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, il me semble que la Suède ou la Norvège ou la Finlande sont des pays où la frontière n'est pas tant par le métier. Enfin, au contraire, chacun a un métier et, par exemple, les paysans sont très présents. Il y a quelque chose de paysan chez ces gens-là.
Alors, c'est amusant parce que. Même si je n'avais pas du tout fini ce que je voulais dire, mais du coup, moi, je les ai pensés français, vous voyez, parce que on était à la Comédie Française, j'ai pas du tout pensé à la nationalité de l'auteur, donc c'était très intéressant que vous disiez ça, Marie-Joëlle Sirage, mais pour moi, c'était pour le coup des classes populaires françaises qui étaient ici représentées, alors ce qui est effectivement pas le cas quand Lars Norén l'écrit, certainement, mais il y a quelque chose j'entendais quelque chose comme ces gens n'ont jamais eu de vie. Ils attendent la mort, mais quand même, il y a une phrase qui revient sans arrêt pour tous, c'est est-ce qu'on est déjà mort? Est-ce qu'on ne serait pas déjà mort? Parce que, au sens où ils n'ont pas eu de vie, et c'est vraiment, ils ont tous aussi de lourds problèmes familiaux, des décès d'enfants, cette fille handicapée. Alors, attardée maintenant, on dit, je ne sais plus quoi, demeurée, on ne dit plus demeurée, on dit attardée, reprend sa mère, Martine Chevalier, qui est pas la plus mauvaise non plus. Enfin, ils sont tous exceptionnels. Hein. Mais c'est vrai que la virtuosité est quand même au rendez-vous de passer comme ça, avec un texte qui passe sans arrêt de l'un à l'autre et du coq à l'âne, pourrait-on dire. C'est un tour de force. Alors, hier après-midi, il se trouve que je l'ai vu, il y a eu deux petits trous de mémoire, mais encore une fois, ça joue presque avec la représentation. Mais moi, j'appuierai là-dessus la mise en scène. Je trouve que si elle n'est pas ostentatoire, elle est très très riche, parce que c'était fascinant de les regarder tous, y compris ceux qui n'ont pas de texte pendant assez longtemps. Ils sont dans un présent, dans une intensité. Ils sont tous occupés à faire quelque chose. Et ça m'a pas du tout semblé artificiel. Il y avait vraiment une intensité de présence de chacun des 12, 11 interprètes pendant plus d'une heure cinquante. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ça n'a l'air de rien. Vous trouvez, Fabienne Pascaux, peut-être parce que vous l'avez vu à la première.
Oui, peut-être.
C'est beau ce voile. Parce que, par exemple, il y a des lumières tout du long qui sont assez énigmatiques au départ. Qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. Il y a un problème. Puis ce voile, il va prendre de l'espace sur le plateau au fur et à mesure que la mort en prend. C'est tout simple. Moi, je trouve ça très, très beau, Fabienne Pascaux.
Oui, non, mais vous avez raison. Moi, j'ai trouvé que... pour moi, c'est une pièce un peu métaphysique et qui clôt formidablement le parcours de Lars Norén. Quand
enfin,
on pense
qu'il n'est pas clos. Hein.
Moi, j'espère que non aussi. Mais quand on pense aux pièces totalement psychanalytiques, exacerbées, bergmaniennes qu'il avait fait, c'est aussi l'héritier de Strindberg et de toute cette violence dans le couple, les déchaînements de la passion, du sexe.
On n'a pas rappelé des mondes. Clinicien, catégorie 3.
Exactement.
Enfin,
et puis après, quand il s'est intéressé à toutes ces pièces, ces sagas qu'il a fait autour des SDF, il a fait quantité de choses. Et là, c'est presque un apaisement, comme vous le disiez, Marie-Josée, il ose regarder la mort en face. Et on est tellement sidéré par ce courage qu'il a d'affronter ce sujet qui nous fait peur à tous et qu'il affronte frontalement, c'est le cas de le dire. Ouais. Que finalement, c'est ou trop ou pas assez sa mise en scène. Ça aurait pu être rien.
Bah, peut-être que ça s'est calé
depuis
la première.
Il n'avait même pas besoin du voile. Vous voyez, c'est dans cet entre-deux que je trouve un tout petit peu maladroit. Mais ça ne m'ôte rien à la formidable qualité du spectacle.
Ouais, ouais, moi c'est vrai que j'ai trouvé ça très riche. Alors, quelques commentaires sur les réseaux sociaux de Vévesque Jancard, qui parle d'un texte à la fois drôle et désespéré sur la vieillesse servie par un ensemble de formidables comédiens. Ça, on est bien d'accord. Jérémy Guillou, splendide œuvre, présenté la Comédie française, beaucoup d'intelligence et de poésie dans ce théâtre, et Claudie Maréchal, Poussière ou Descendre, jeu de mots, La vieillesse, humour acerbe et décapant, mais parce que c'est vrai, moi j'ai été sensible pendant la représentation, beaucoup d'humour aussi, et heureusement, alors un humour très, très grinçant, un humour souvent noir, ou un humour potache par moment, Philippe Chevillier, mais il y a besoin de ces respirations justement dans cette pièce, et Lars Noren les met au bon endroit.
Bah, oui, il y a cette fameuse phrase où ici on met plus de temps à mourir qu'à l'opéra. et qui, alors là, fait rire tout le monde. C'est un peu libérateur parce qu'il y a d'autres moments où on rit jaune.
Ah, oui.
Et c'est vrai que les oublis, la mémoire qui s'envole, ça crée des éléments comiques et qui sont assumés par Lars Noren et qui sont assumés par les comédiens. Et du coup, ce genre de phrases aussi qui sont un peu vraiment décalées, comme celle sur l'opéra, permettent de se libérer. Il faut bien qu'il y ait cette libération. Sur la mise en scène, moi, je pensais justement qu'il y avait quand même, ça m'avait frappé dans Pur au Vieux Colombie, il sait faire des images. Je trouve que là, l'image du début avec les pupitres, avec les photos plus jeunes, visiblement sur les pupitres qui s'envolent comme ça, c'est assez beau.
Je pensais à une œuvre de Boltanski quand le rideau s'est levé.
Oui, c'est vrai que ça y fait penser. Et alors, ce qui est fascinant aussi quand on réfléchit, c'est qu'on a alors les deux, on a dans les deux salles principales de la Comédie française des pièces sur la mort, puisqu'on a le Lagarce
au Vieux Colombier,
et puis là, on a alors c'est plus elliptique.
Mais la mort, c'est la vie.
Mais absolument. mais pour ce qui prouve, alors les deux auteurs, hein, c'était sous l'ère Mayette qu'on a eu à la fois le Jean-Luc Lagarce juste à la fin du monde, et puis Pur de Lars Noren. Là, ils sont en même temps. Alors, c'est sans doute un hasard du calendrier, mais en tout cas, on craint pas la Comédie française en ce moment. On sait qu'on peut avoir du public, même avec des sujets qui sont sur le papier peuvent faire quand même un peu peur, parce que quand on vous dit 11 personnes vont disparaître sur scène, ça peut faire peur au public.
La vieillesse. Marie-Josée Sirage, pour terminer sur Poussière.
Oui, dire juste que dans l'humour, comme dans la méchanceté ou la naïveté de ces personnages que l'on voit sur le plateau, la force de l'écriture de Lars Noren, c'est qu'il parle sans filtre. Et ça, je trouve ça remarquable, parce que c'est tellement rare, on a toujours l'habitude de vouloir édulcorer, de faire attention à ceci, cela, et eux, c'est brut de décoffrage. Et ça, je trouve ça... C'est ça aussi qui participe au trouble et que l'on peut ressentir tout au long du spectacle.
Poussière, vous voulez dire un dernier mot, Fabien Escoche?
Oui, non, dans le registre de ce que vient de dire Marie-Josée, c'est vrai que, par exemple, je salue Hervé Pierre, ouais, d'ailleurs, qui est de plus en plus nu à chaque spectacle, puisque dans La Tempête, il était un peu, là, il est encore complètement incontinent de surcroît.
Il est extraordinaire.
Hein. Il est extraordinaire. D'ailleurs, il s'affine au fur et à mesure qu'il se montre nu, hein, il doit se muscler en tant qu'acteur. Mais la relation de couple avec Dominique Blanc est effroyable, quoi. C'est deux êtres condamnés à vivre ensemble, qui ont eu trois enfants, qui ne s'aiment plus et qui sont d'une cruauté l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça,
ça
c'est vrai que c'est
sans filtre. Ça fait partie du rire jaune ou noir de l'émission, de la pièce.
C'est Bergman, c'est plein de choses, mais c'est Beckett aussi, c'est tout. Enfin, il est formidable, ce Noren.
Lars Noren signe et met en scène Poussière dans une traduction de Eino Höglund et Amélie Wendling, ce texte jusqu'au 16 juin en alternance à la Comédie française, salle Richelieu. À suivre dans la dispute, Marivaux et Lola Molina.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant avec une nouvelle mise en scène de Catherine Yégel au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Elle y avait présenté avec grand succès Les Femmes Savantes il y a 2 ans. Elle revient avec Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. On rappelle brièvement l'histoire qui voit Sylvia, promise à Dorante, obtenir l'autorisation de son père d'accueillir le jeune homme et son valet Arlequin en se faisant passer pour une domestique. La servante de Lisa, Lisette, jouera bien sûr le rôle de sa maîtresse. Donc, comme ça, elle pourra en savoir plus sur son futur mari, Sylvia. Mais évidemment, lui aussi a eu la même idée. Il se fait passer pour son serviteur qui, lui, se fait passer pour son maître. On est bien chez Marivaux, pas de doute. Ce sont Clotilde M et Nicolas Maury qui jouent les maîtres, Laure Calamy et Vincent de Dienne, les valets.
C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver chez vous que sous la figure de son valet, qui, de son côté, fera le personnage de son maître.
Voilà donc ce qu'il se passe quand un théâtre ne donne pas d'extrait du spectacle, mais nous renvoie au teaser, comme on dit maintenant, qui doit se trouver sur le site du théâtre de la Porte Saint-Martin. On entend de la musique. Bon, alors pour entendre du son, moi je n'ai pas vu cette production, donc je vais m'en remettre à vous pour savoir s'il faut que je me rende au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et je commence avec Philippe Chevillier.
Alors c'est une version muette, comme vous l'avez compris, il n'y a que de la musique. Ouais. Non, plus sérieusement, alors c'est une mise en scène très classique, tout à fait dans la lignée de ce que fait Catherine Yégel, que ce soit L'Avare, la Comédie Française ou ensuite Les Femmes Savantes. Classique, ça ne veut pas dire ringard, ça ne veut pas dire, poussiéreux.
Si.
Alors... Pour moi,
Fabienne Pascaud s'est exprimée.
Pour moi, non. Je pense que c'est intelligent dans la vision qu'elle a de l'œuvre. Elle la respecte. Elle fait entendre le texte. Il y a toujours ces petits légers décalages dans la façon dont elle, dont elle dirige les acteurs. Le décor, moi, m'a d'abord un peu rebuté parce que voir des buissons genre plantes vertes avec des colonnades et tout ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis finalement, comme c'est un décor qui est posé dans le théâtre nu et qui joue avec le vrai du théâtre, on voit bien qu'il y a une volonté de faire un décalage. On est dans le faux, puisqu'on est aussi dans des rapports faux dans la pièce, etc. Donc, je dis ça très vite parce que l'essentiel de sa mise en scène, c'est la direction des acteurs. Et on va parler d'abord, pour moi, du premier, puisque c'était la grande question que tout le monde se posait. Et alors, comment il est, Vincent de Dienne ? Et moi, je l'ai trouvé très bon dans Arlequin. Alors, il est vrai que Catherine Yégel a fait une mise en scène qui le sert, ainsi que Laure Calamy, qui fait Lisette, qui est excellente, qui sert ces deux comédiens de façon fort habile. Il y a beaucoup de gags. Elle lui offre même une petite danse à la fin. Mais il y a un élément qui, pour moi, était assez fort, c'est qu'on parlait dans le théâtre privé du fait que les gens applaudissaient beaucoup au milieu du spectacle. Moi, lorsque Vincent de Dienne est arrivé, les gens ont commencé à applaudir et puis se sont arrêtés immédiatement parce qu'il a été d'emblée Arlequin, qu'il a été d'emblée dans le texte, qu'il n'a pas fait de clin d'œil et qu'il était donc ça, c'est réussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé le couple Clotilde Nicolas Maury. Donc Clotilde fait Sylvia. Moi, j'ai trouvé ça, je pense qu'elle a beaucoup soigné la direction d'acteur du personnage, parce que la direction d'actrice, puisque on a ce personnage est assez difficile à trouver. Elle a un côté un peu vieille fille au départ, extrêmement rude, extrêmement, et Clotilde qui est capable de tout faire, à mon avis, je la trouve là-dedans, justement dans ce personnage écorché vif, tout d'un coup qui se rend compte qu'elle est amoureuse, et puis qui au départ se disait non, je veux pas me marier parce que c'est des conventions, et puis finalement elle tombe amoureuse d'un valet, elle sait plus où elle en est, et je trouve qu'elle est assez excellente. Et alors Nicolas Maury, le jour où je l'ai vu, moi, il paraît qu'il est monté en puissance. Il était en dessous parce que c'était canaliser le flow Nicolas Maury, ça ne doit pas être facile. Et il était un peu, il mangeait un peu son texte. Bon, moyennant quoi, la cruauté de la pièce, elle y est. Les rapports de classe aussi. Les gens sont ravis dans la salle. J'ai passé un bon moment. C'est pas une révolution, mais voilà, j'ai plutôt bien aimé ce spectacle.
Marie-Josée Cirage sur cette production signée Catherine Yégel de la pièce de Marivaux.
Oui, c'est effectivement un travail plaisant. Les décors sont beaux, les costumes aussi. Les acteurs, je suis assez partagée, c'est-à-dire que je trouve que Vincent de Dienne, comme Laure Calamy, qui sont très bons, parce que tous je les trouve plutôt bons, font quand même, enfin surtout Vincent de Dienne, fait quand même du Vincent de Dienne, mais ça reste quand même un bon acteur, donc c'est pas inintéressant. Et Clotilde M, je ne redirai pas ce que vous avez dit, Philippe, parce qu'effectivement, c'est une actrice que j'aime beaucoup et qui est formidable dans Sylvia. Et Nicolas Maury, le choix est surprenant et il campe un dorante assez subtil et qui, au fur et à mesure de la pièce, s'affirme et se libère de quelque chose qui le contraignait au tout début. Et je trouve que il lui donne beaucoup de, il lui donne vraiment vie et c'est assez intéressant. Je suis sur la mise en scène, je la trouve extrêmement illustratrice, enfin très plate, hein, donc sans surprise. Et je dirais même que c'est un tantinet trop long. C'est-à-dire que la dernière demi-heure, quand même, on a du mal. On connaît...
La première aussi.
Bon, alors voilà, je ne sais pas dire.
Parce que c'est exprimé. Je vais faire un jingle comme ça maintenant.
Mais la dernière, en tout cas, j'ai senti passer, moi. J'ai trouvé que c'était quand même très long. Bon. Surtout qu'on connaît la fin et que
ouais, c'est pas la tout le monde ne connaît pas la fin et tout le monde ne connaît pas Vincent Dedienne, parce que moi je vous avoue que je ne sais pas qui c'est. Quand vous dites Vincent Dedienne, fait du Vincent Dedienne, ça ne me dit rien de plus. Mais je sais bien qu'il est très apprécié.
On va aller voir les seuls en scène.
Mais moi j'en vais et j'y vais et je cherche absolument à faire des disputes sur des seuls en scène, voire même moi, des stand-up. Mais je crois qu'on est on n'est pas très nombreux dans toute l'équipe des critiques réunies. Mais si on arrive à le monter, ce sera avec plaisir, parce que je vais en voir régulièrement, mais j'ai pas vu Vincent Dedienne.
Il se passe plein de choses et quantité de jeunes talents et
on est d'accord.
Et
bon, Fabienne, vous m'aidez pour le reste de l'équipe.
Volontiers, je vais essayer de les convaincre. Lucille Comeau est d'accord. Parce que pour moi, c'est
Philippe, vous en seriez
tout à fait. J'en ai fait quelques-uns, mais et il y a Vincent Dedienne, je crois, en fait.
C'est au théâtre ce que sont les séries à la télévision, quoi, en gros.
Ah, bon là, c'est un autre débat. Je crois qu'il va falloir une autre émission. Revenons à notre théâtre de la Porte-Saint-Martin,
Fabienne Pascaud. Écoutez, moi, ça m'amusait parce que nos deux amis se jugent par défaut, quoi, finalement. N'osent pas dire que disent que c'est classique, mais pas ringard, mais pas poussiéreuse, qui, avec un tout petit peu de psychanalyse... Philippe veut dire que c'est totalement ringard et totalement poussiéreux.
Ça y est, j'ai trouvé des filles rougies. Moi qui en cherchais.
Marie-Josée dit que c'est un peu plat, mais que c'est plaisant. C'est vrai qu'on est un peu mal à l'aise, nous autres critiques, enfin moi en tout cas, parce que c'est un spectacle que je n'ai pas aimé, mais la salle est en délire. Je suis partie, il y avait quantité de rappels, de gens debout, et c'est vrai que ça plaît. Moyennant quoi, alors est-ce qu'il faut être un petit peu condescendant pour un public où tous ont accès à un spectacle dit populaire, au bon sens du terme? C'est là que moi j'ai des états d'âme, parce que je trouve que c'est certes un spectacle populaire, mais c'est un mauvais spectacle. Et c'est Marivaux par le petit côté de la lorgnette. Marivaux montré au minimum vital, par exemple toute la cruauté qui peut y avoir dans ce rapport, la cruauté de classe, contrairement à Philippe, je pense qu'elle est pas du tout, alors que c'est vraiment ce qu'ose dire Marivaux sur finalement ces domestiques qui croient un temps qui vont être maîtres et puis qui se retrouvent à leur situation de domestique et tout le monde trouve ça normal, mais il y a quand même une amertume chez eux. Ça c'est platement montré. Je trouve que le couple qui joue sous le regard d'une violoncelliste, alors là c'est le play in the play, comme le décor est bien montré, comme cette boîte sous les projecteurs, si on n'a pas compris qu'il y a du stratagème chez Marivaux et que tout le monde joue et rejoue, là on ne peut pas y échapper dans ce spectacle. Je trouve que le couple, on n'y croit pas une seconde, Clotilde M et Nicolas Maury. D'abord Nicolas Maury doit avoir 7-8 ans de moins que Clotilde M, donc le couple est totalement inassorti. Ça, sur le côté vieille fille, c'est sûr. Moi, je la trouve trop âgée pour le rôle, Clotilde M. Sylvia, c'est une jeune fille qui découvre l'amour. Clotilde M, c'est une comédienne magnifique, mais elle est mieux pour jouer les fausses confidences que le jeu de l'amour et du hasard. Là, le couple fonctionne très très mal et totalement désaccordé, désuni. On comprend pas ce qui peut se passer entre eux. Donc, pour moi, c'est totalement raté de ce côté-là. Alors, certes, c'est une distribution avec des têtes d'affiche, Clotilde M, Nicolas Maury, qu'on a vu, nous, dans des spectacles de décentralisation et notamment chez Cantarella, mais qui a aussi été très remarqué dans la série 10% de
avec
Dominique Besnéard, avec Laure Calamy.
Donc on a ça, vu nous c'est... aussi depuis longtemps Laure
exactement.
Calamy dans ses spectacles.
Exactement. Vincent Dedienne, c'est une star dans son domaine. Donc je trouve que c'est une distribution à l'épate et pour moi mal accordée.
Alors j'ai l'impression qu'on refait un peu la dispute sur art au théâtre Antoine. Vous savez, dans ces salles très enthousiastes, et on se dit que quand même on pourrait faire mieux. Avec le même spectacle.
Exactement, avec la même pièce, comme on l'avait dit, pour TG Stan, qui est la mise en scène, bien sûr.
Marie-Louise Sirage, comment entendez-vous?
C'est pas tant le public qui m'ennuie. Enfin, je ne prends pas en compte la réaction du public.
Non, mais il ne s'agit pas de ça.
Non, j'admire que le public soit si enchanté.
Oui, mais parce que c'est plaisant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a du travail sur le plateau, on en a pour son argent. Il y a un vrai décor, il y a des vrais costumes, il y a des acteurs qui tiennent bien leur rôle.
Donc c'est indéniable, on peut pas le nier. Genre c'est pas bâclé.
La pièce est pas mal, il faut le dire.
La pièce se tient à peu près, merci monsieur Marivaux. Ce que je reproche, c'est la mise en scène. Elle est à la fois plaisante, mais elle est illustratrice, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de vue, il y a aucune nouveauté. Tout d'un coup, elle ne la met pas. Il y a rien de neuf à l'horizon. C'est même quasiment presque scolaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a. On est dans du sûr. Yégel bétonne sa mise en scène, et donc il y a pas de faux pas. Sur l'histoire de la lutte, de la cruauté de classe, ça y est, parce que ça y est dans le texte. Alors, je pense que d'un soir à l'autre, peut-être que ça varie, mais moi, je l'ai éprouvé au moment où les deux valets, enfin le couple Arlequin et Lise, s'aperçoivent que finalement, il ne va pas leur rester grand-chose, qu'ils ont cru un instant qu'ils allaient être les rois du pétrole et que finalement, ils redeviennent à leur place. Et dans un affrontement entre Clotilde M et sa servante, où elle la remet un peu à sa place, hein, donc ça y est. On peut l'entendre, on peut ne pas l'entendre, on peut entendre uniquement les violons, enfin pour le coup le violoncelle, et puis et se dire voilà, on en a plein les mirettes. La mise en scène, elle est pas honteuse, mais elle n'a rien de elle restera pas dans les annales de l'histoire, je pense.
Moi, je dois dire que j'ai un souvenir quand même très ébloui de la mise en scène de Galine Stoev. C'était pour la Comédie française, ce jeu de l'amour et du hasard, mais j'étais en train de rechercher tous les tenants de la distribution. Il faut dire que c'était quand même donc Léonie Simaga, Alexandre Pavlov, Pierre-Louis Calixte, Pierre Ninet, Sulane Brahim et Christian Eck. Donc la barre était très très haute, mais surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, et ce que j'entends pas dans vos propos ce soir pour cette nouvelle production, c'est qu'il y avait des vraies parties de prix de mise en scène, un vrai regard sur les personnages, sur la dramaturgie. Philippe Chevillier, par rapport aux critiques de Fabienne Pascaud.
Alors moi, je vais vous dire, moi, c'est le jeu de l'amour et du hasard que j'ai préféré, c'est celui qui avait été assez conspué par pas mal de critiques, qui était la version de Michel Raskin, où il avait vieilli tous les personnages. Il nous avait fait un quatrième acte où on voyait, parce que finalement, il avait bien senti cette cruauté, ces rapports de classe terribles, et le fait qu'à la fin, les deux amoureux sont tellement battus pour essayer de trouver cet amour, etc., qu'à la fin, ils sont tellement épuisés qu'ils ne s'aiment même plus. Et il avait fait un quatrième acte muet, avec de la musique, enfin, et ça avait, tout le monde avait dit, oh là là, c'est scandaleux, il n'y a pas des jeunes enfants. Donc moi, je préfère les mises en scène, évidemment, comme cela. Mais simplement, ce que je dis, quand je vois un spectacle qui est fait un peu à l'ancienne, old school, c'est est-ce que j'entends quand même la pièce et est-ce que j'ai du plaisir à regarder les comédiens? C'est tout ce que je voulais dire.
Moi, c'était tellement lent que je n'entendais plus.
Et en plus, je pense que la mise en scène, ce qui est amusant, c'est que je pense que la mise en scène, enfin, en tout cas, la gestuelle de mise en scène, elle est faite autour du couple de Diane Calamé, autour des valets. Les autres, ils sont laissés un petit peu. Alors, c'est surtout de la direction d'acteur. Ils sont figés, mais pour le reste, il y a des petits moments de gag, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai trouvé que le public criait à Marivaux. C'est-à-dire que c'est pas quand ils font forcément le clown quand elle crée les gags qu'elle crée, s'il y en a quelques-uns quand même, dans les mimiques des acteurs, c'est pas là, c'est qu'on l'entend ce texte. Donc voilà, c'est une mise en scène classique dans un lieu, dans un théâtre privé. C'est une porte pour des gens ou pour des jeunes pour aller voir des classiques. Pour se rendre compte que Marivaux, c'est très moderne. Donc voilà, je vais pas me rouler par terre en disant que c'était magnifique, mais c'est un spectacle où j'ai passé un bon moment et où j'étais content de voir de bons acteurs et des découvertes. Vincent de Dienne, qu'on ira voir. On lance le défi.
Ah bah, avec plaisir.
Dans un seul en scène.
Ah bah, avec joie. Ça fait quoi ce que vous dites? Un des propos sur Twitter de Maël Gauthier qui parle d'une excellente performance de Vincent de Dienne et Laure Calamy, mais tous les acteurs en fait sont très bons, avec peut-être un bémol pour Nicolas Maury, qui fouille souvent son texte, et Alexandre Sim qui parle lui d'une brillante distribution pour cette mise en scène délicieuse. Voilà ce que... Alors c'est difficile de faire la synthèse de vos propos, hein, pour moi qui n'ai pas vu ce spectacle. Je ne sais pas encore vous pencher, hein.
Moi, en tout cas, les intérêts de ce spectacle, pour moi, c'est que la première scène et les premières scènes sont tellement lentes, que j'ai eu le temps de remarquer à quel point Marivaux avait pompé Molière, finalement. Les femmes savantes, le misanthrope. Là, je suis gré à Catherine Yégel de m'avoir révélé ça.
Bon, ben voilà une révélation pour Fabienne Pascaud. On va finir là-dessus, vous savez, pour l'affiche. Une révélation, Fabienne Pascaud, Télérama.
Et voilà, comment on se retrouve. C'est comme ça qu'on fait toujours.
C'est comme ça qu'on fait.
Moi, je ne dis plus rien, c'est ma future psy, donc...
Exact.
Ça va vous coûter cher sinon. Bon, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène par Catherine Yégel, c'est actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, pour celui-ci, on va se rendre au Lucernaire pour y découvrir Seasonal Affective Disorder. Le texte est signé Lola Molina, la mise en scène Lélio Ploton. Ces deux-là ont fondé en 2007 la compagnie Léla, spécialisée dans la création d'espaces d'écoute collective et d'installations sonores. Il est vrai que le son a ici une grande importance, on va sans doute en reparler. Deux comédiens sur le plateau, presque nus, si ce n'est un écran vidéo en son centre. Anne-Lise Emberger et Laurent Sauvage. Elle est Dolly, une gamine qui a dû faire une bêtise, peut-être une grosse bêtise. Et lui, c'est Vlad, qui semble revenu de tout. Ensemble, ils vont partir en cavale.
Vlad !
Putain, t'étais où, Dolly ? J'ai cru que tu t'étais barré.
La poste ! J'étais à la poste ! Celle qui est là, là. Je t'ai dit que j'ai besoin de fric, mais elle est fermée. Alors, j'ai eu l'idée d'utiliser le distributeur qui est à l'extérieur. Je t'ai dit jamais, mais bon. Et j'ai pensé que des fenêtres de l'hôtel, on devait me voir. J'ai pensé que je me cacherais pour faire le coq, tu vois. J'ai pensé, si je me mets bien devant, que je pose mes doigts comme ça, comme pour pianoter à différents endroits, mais que j'appuie vraiment seulement sur mes touches. Mais quand je me suis décidée, j'ai pensé à la puce.
La puce.
La puce électronique. De la carte à mon nom.
C'est quoi le problème de lui? Tu peux me dire pourquoi tu peux pas utiliser ta carte? Ça a un lien avec les petites taches de sang.
J'ai raté un rendez-vous, je crois. Je comprends pourquoi le soleil se lève pas, parce que du coup j'arrive pas à savoir l'heure qu'il est. Je devais me présenter à la première heure, mais la première heure de quoi? Du jour, non, j'imagine, Vlad. Mais j'ai pas reçu de papier avec une heure exacte de convocation. Enfin, les gens comme ça, ils sont censés donner un papier, non? Les flics, ils devraient faire comme les médecins ou les labos, tu crois pas, Vlad?
C'est vrai que finalement, quand tu passes la nuit, une nuit avec une fille, il y a un risque pour que ça tourne mal. Ça me revient comme un vieux dicton que j'aurais bêtement oublié. Mais là, j'avoue que ça me revient bien fort et que je peux sentir la claque qui va avec. Je vais chercher un café au distributeur dans le couloir. Je t'en prends un, ok? Tu restes là, tu bouges pas. Dolly, tu vas où? Je t'ai dit que je revenais.
Je peux pas rester, Vlad. Je vais essayer de me présenter là-bas. Et j'ai pensé que peut-être ça poserait pas vraiment de problème avec puissance du soleil. Vlad, j'ai pensé que peut-être vous n'avez pas ouvert non plus, hein, vu le ciel, alors...
Écoute, tu vas aller nulle part. On va boire un café et réfléchir. C'est l'après-midi, elle est passée depuis longtemps l'heure de ta convocation. Retourne dans la chambre.
Il fait froid dans la chambre.
Voilà pour cet extrait, cette fois un vrai extrait de Seasonal Affective Disorder. Marie-Josée Sirache pour commencer ce spectacle qu'on peut voir au Lucernaire.
C'est une très belle pièce. J'ai trouvé cette histoire incroyable, totalement contemporaine, une cavale entre cette toute jeune fille dont on comprend qu'elle est mineure et cet homme d'âge plus avancé, qui doit avoir une quarantaine d'années. C'est une pièce qui brave l'interdit, le tabou, c'est une cavale, ils deviennent Bonnie and Clyde par la force des choses, parce que tout d'un coup, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Et ça démarre porte de Bagnolet, dans un endroit sordide, Formule 1 ou je ne sais pas quoi.
Un étape hôtel. J'ai noté.
Et à partir de là, ils fuient. Et on les suit, et on est dedans, on est avec eux complètement, tout le temps. Et c'est remarquable parce que la mise en scène est très sobre et il y a ces deux acteurs qui sont face publique, qui se parlent. Alors je trouve assez beau ce croisement entre les voix intérieures et puis les dialogues entre deux. Il y a la vidéo derrière qui projette des images qui effectivement nous font avancer dans l'histoire, dans les lieux, dans l'espace géographique et mental de ces deux personnages où l'un comme l'autre ont des fragilités en même temps des assurances, comme des sursauts de vie permanents et ensuite la musique qui joue un rôle important, qui ne vient pas combler les vides mais qui les accompagne, qui orchestre cette cavale, cette fuite en avant jusqu'au dénouement. Qui ne leur sera pas très heureux, mais c'était un peu couru d'avance.
On peut s'en douter. Bon, pour ce premier regard, Fabienne Pascaud, cette pièce signée Lola Molina.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que ce texte, il est courageux parce qu'il n'est pas politiquement correct. Hein. Un homme de 40 ans qui séduit une jeune fille de 14 ans, qui la protège. Et donc c'est vrai que ça brave tous les interdits. Moi j'ai été surtout sensible par-delà l'histoire qui est passionnante, l'histoire d'amour brutale, instantanée, fulgurante. Et par le jeu des acteurs, j'ai redécouvert Anne-Lise Heimberger, qui est vraiment Heimberger.
Je sais pas, pardon. Ouais. Vous le voulez.
Qui est vraiment dans le rôle de petite peste, de fille brisée, de victime et de bourreau à la fois, capable de tout, de rire comme de tuer. Je l'ai trouvée éblouissante et vraiment elle m'a ouvert. Et elle peut jouer une gamine de 14 ans et on ne se pose pas la moindre question. Et puis Laurent Sauvage, il est ce qu'il est, quoi. Toujours, il trimballe des personnages avec des tonnes de personnages. De paysage, de désespérance, d'ivresse, de fatigue, de renoncement. Il est magnifique. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils nous font vraiment, vraiment voyager et ils sont la plupart du temps debout, chacun devant leur micro. Donc, il se passe très peu de choses. La mise en scène, elle est effectivement sobrissime. Il y a tout un environnement sonore. Mais ce qui est prodigieux, c'est que par la seule force de leur verbe, ils nous promènent, ils nous baladent. Il nous raconte une histoire folle, quoi. Donc c'est du cinéma et c'est presque de la radio. Donc c'est étonnant.
Bon, Philippe Chevillier, à présent sur Seasonal Affective Disorder.
Ben, je suis d'accord.
Bon.
Alors d'abord quel comédien, en effet. Moi j'avoue que les deux dans un genre différent, la petite Anne-Lise dont je prononcerai pas le nom tant qu'on n'est pas sûr, mais
qui quand même
Heimberger,
elle nous le dira.
Et vraiment jouer une gamine de 14 ans sans que ça soit un peu grotesque, un peu cliché, un peu, elle arrive à être femme enfant à la fois très mûre par moment et puis par moment complètement une gamine, c'est assez extraordinaire. Lui avec ce côté un peu Gainsbourg, un peu revenu de tout mais qui est là, qui tombe amoureux, qui la protège, et je trouve ça assez remarquable. Et puis c'est un texte alors qui est très bien écrit. Alors pour le coup, je me suis un peu épanché parfois sur l'écriture de certains de nos spectacles que l'on a vu ces derniers temps, sur le fait qu'il pouvait être intéressant mais que l'écriture avait des limites. Là, il y a une écriture qui est assez incroyable, même dans les passages les plus difficiles, évoquer justement ces rapports sexuels entre une gamine de 14 ans et un homme de 40 ans. Il y a une scène qui est absolument magnifique, tant pis si j'en dis un peu trop, mais quand tout d'un coup il la découvre avec un bébé, elle a volé un bébé dans une maison, c'est un moment incroyable dans la pièce. Alors, si je pouvais quand même faire des bémols, c'est vrai que ce côté d'Oli and Vlad, c'est un peu, c'est quand même une histoire, ça, c'est un peu le road movie ou le road play, on sait comment ça va finir, enfin d'ailleurs on le sait dès le départ, c'est peut-être un peu convenu le côté roman noir, mais c'est tellement bien foutu que ça marche. Autre bémol, je trouve que dans le son, les voix, le jeu des voix est très bien. La musique, par moment, a un côté un petit peu anxiogène, un peu. Je trouve que ça surligne un petit peu beaucoup. Je trouve que la musique parfois est un peu inutile. Et puis la vidéo, c'est peut-être ce carré qui représente, d'après ce que j'ai compris, le sorte de rétroviseur de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est bien. Peut-être qu'ils auraient pu être un peu plus baignés dans que la vidéo aurait pu être plus grande, mais bon, il faut avoir des moyens peut-être plus importants et c'est un spectacle qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais franchement, entre l'écriture, les comédiens, voilà, c'est un spectacle qui est court, en plus, une heure et quart, qu'on peut recommander au Lucernaire.
Bon, des bémols très tempérés, visiblement.
Oui,
Philippe Chevillier. Moi, je vais en rajouter beaucoup, parce que je pense qu'il est plus qu'à conseiller. Je pense que si on aime le théâtre, il faut aller voir ce spectacle au Lucernaire, parce que, alors, c'est sûr que moi, j'avais vu passer Anne-Lise Heimberger, je le dis comme ça, dans les programmes. Je dis, oh, ben, tiens, on a envie d'aller voir. Laurent Sauvage, ben, on se dit, on a d'autant plus envie. On ne connaît pas l'auteur ni le metteur en scène, mais tant mieux, parce que comme ça, on découvre. Alors, moi aussi, là, texte de Lola Molina, j'ai trouvé quand même absolument remarquable sur le fond, sur la forme, parce que vous en avez parlé, Marie-Josée, mais c'est cette façon de passer du dialogue à la pensée, au récit de l'action, c'est sans aucune couture apparente, et puis en plus ils le font avec une virtuosité aussi assez incroyable. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'ils ont, on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait, deux registres de jeu très différents. Elle est très naturaliste au présent, et lui, tout est à plat, presque sans intention, alors qu'évidemment tout est chargé autrement. Et c'est très beau de la façon dont ça interroge, et ça vous le disiez Fabienne Pascaud, les conventions de théâtre, parce qu'on voit tout. On est devant un plateau nu et on est absolument partout, de cette chambre de l'hôtel, de l'étape hôtel, à la boîte de nuit, au bord de plage. Ils nous font tout voir, mais ça, par la grâce à la fois du texte en premier lieu, mais aussi de l'interprétation. Et puis moi, je trouve que c'est très émouvant de voir deux acteurs comme ceux-là, qui sont quand même des acteurs qui travaillent dans de belles productions avec des gens talentueux, aller se confronter au paradis. Hein, c'est la petite salle du Lucernaire tout en haut. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle le paradis. Avec, sans doute et à l'évidence, pas beaucoup de moyens d'y aller, quoi, parce qu'ils y vont pendant une heure et quart, ils portent un texte, ils y croient, et ils nous le donnent vraiment. Je trouve que c'est une magnifique déclaration d'amour au théâtre, que la présence de ces deux acteurs qui ont, je le souhaite et je le sais quand même, du travail par ailleurs, de dire bah, bon, on va se consacrer à cette écriture-là. Moi, ça m'a ému, Fabienne Pascaud, vous aussi.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, vous voyez, vous parlez, on parlait de vidéo. Moi, en fait, j'étais tellement hypnotisée par eux, par leur jeu, que j'ai même à peine vu la vidéo, en fait.
Ouais, je dirais que c'est peut-être le maillon un peu faible.
Oui, voilà. La vidéo, c'est pas ce qui m'a... Mais leur visage, leur dégaine, leur posture, c'est là on voit le travail sur le corps aussi, ça a l'air de rien, mais ils habitent tellement leur corps, tous les deux, que même immobiles, c'est là où on voit que leur art est totalement accompli, immobiles face à leur micro... Leur présence même, leur chair, leur manière de reposer sur leurs pieds et de tenir leur tête dégagent des choses insensées.
C'est pour ça que ce serait bien à la radio, mais c'est encore mieux sur scène.
C'est encore mieux sur scène.
Parce qu'ils sont là, enfin, ils ont une présence physique là aussi très différente, l'un et l'autre. Philippe Chevillé.
Oui, d'ailleurs, il y a une scène, alors je critiquais la musique, mais moi j'aime bien. Alors,
le travail sonore, pardon, je ne l'ai pas dit, moi je le trouve remarquable. J'ai eu un petit peu peur les premières minutes, mais qu'est-ce que c'est? En fait, je trouve que c'est très tenu. Hein.
Alors,
très
j'aime beaucoup quand il y a de la musique disco, techno sur scène et tout ça.
C'est parce que vous aimez aller danser, Philippe.
Voilà, exactement. Mais justement, à un moment donné, elle est toute seule en scène avec pas du tout des boules à facettes au plafond, et elle se met à danser, et franchement c'est très difficile à faire pour que ça soit pas ridicule, et vraiment on a l'impression qu'elle est en train de s'éclater en boîte. C'est-à-dire qu'il y a pas un passage qui ne soit pas joué de façon intelligente et de façon convaincante. On est vraiment là pour le coup, je suis d'accord aussi avec Marie-Josée, on fait un voyage, on est transporté de lieu en lieu, et à chaque fois c'est assez original. La scène par exemple où elle se lave dans une rivière glacée et où elle n'arrive pas à sortir parce que quand la police arrive, elle est comme figée. C'est un moment de suspense incroyable, et à la fois le texte est assez brillant, est brillant à ce moment-là, et en même temps la façon dont elle nous le fait entendre et dont Laurent Sauvage nous le fait entendre, on y est.
Mais c'est une grande fluidité, hein, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Marie-Josée Serrache.
Oui, et puis il y a une charge érotique quand même dans l'écriture comme dans le jeu des acteurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment sous le charme et on a envie de partir avec eux, enfin, moi particulièrement avec Laurent Sauvage, mais on est subjugués. Ils sont l'un et l'autre dégagent quelque chose d'érotique et
je suis même pas sûr. Pardon, vous allez me rafraîchir, mais je suis même pas sûr qu'ils se touchent durant le spectacle. Non, ils
ne se touchent pas. Non. Moi, j'ai pas le sentiment.
Ils sont toujours à distance.
José va pas devoir aller voir Fabienne pour un peu de psy aussi, parce que
ils sont très sexy.
Pardon, je vous ai interrompu,
mais
Marie-Josée.
Sinon, je vais juste dire que ce texte avait été lu à la Mousson d'été avec deux autres comédiens. C'était pas du tout le même point de vue, mais c'était très intéressant, et c'est vrai que c'est très émouvant. Vous avez entièrement raison, Arnaud, de voir ces deux grands acteurs qui jouent dans des productions au TNS, on les voit partout, enfin pas partout, mais on les voit.
Pas assez, mais bon, on les voit.
Mais là, les voir au paradis, dans cette toute petite salle où on est 30 à tout casser, dans cette proximité, et où on les voit, comme le disiez, c'est-à-dire dans leur chair, dans leur corps, s'imprégner de ces personnages, et waouh, ils en voient, et nous on est complètement sous le charme.
C'est vrai que parce que le rendu du fond, qui doit être le troisième, on est à 4,50 mètres des interprètes, à peu
donc
près.
Donc on entend tout.
Bon, et puis, je ne l'ai pas dit, mais je vois que c'est dans le dossier de presse, lauréat du prix Lucernaire Laurent Terzieff, Passerelle de Boisson 2017, pour cette pièce ou cette production. Je ne suis pas sûr que ce prix récompense en une production, et sans doute pour ça qu'elle est montrée au Lucernaire. Bon, ben, concert de louanges. Très très belle découverte de cette auteure, Lola Molina. Seasonal Affective Disorder, de Lola Molina. Mise en scène Lélio Ploton avec Anne-Lise Hemburger et Laurent Sauvage. C'est jusqu'au 31 mars au Lucernaire. Allez-y, si vous n'êtes pas au Lucernaire, mais près de Vierzon, sachez qu'ils y joueront le 28 mai au théâtre La Décale. Concluons avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu de vendredi soir avant de nous en donner la réponse, Camille.
Dans quel film un paysan algérien entreprend un long périple pour faire participer sa vache au salon de l'agriculture?
Et la réponse était...
La vache de Mohamed Hamidi.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Globe, architecture et sciences explore le monde, à découvrir jusqu'au 26 mars à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Quelle est la question?
Quel cinéaste fut inspiré par le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, réalisant ainsi l'un des tout premiers films de science-fiction?
Si vous avez la réponse, vous me l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr nous réécouter et vous abonner au podcast de cette émission. Vous préparez également vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC ou, si vous voulez attendre le direct, sur le compte Twitter Dispute FC. Rendez-vous donc demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique avec Mathilde Serrel, Philippe Azoury et Olivier Lame. Nous parlerons de Face B 1965-1980 de Pierre Vassilieu. La Contraola, c'est chez Bongo Joe, hein, c'est la vague synthwave post-punk en Espagne 80-86, on voyage dans le temps demain. Et Little Dark Age, c'est le nouveau disque de MGMT.